Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Si vous voulez bien suivre avec moi, nous allons faire cette lecture. Alors, elle est unique parce qu'elle n'est rapportée que dans simplement l'évangile de Luc. Voilà, évangile de Luc. Je vous ai dit Marc, mais c'est Luc. Alors, évangile de Luc. Chapitre 7 et verset 11. Alors, c'est un petit récit qui nous est rapporté dans cet évangile, et nous allons, en effet, bien, nous édifier à travers ces quelques paroles. Verset 11, « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Voilà pour la situation biblique, ce qui va entretenir notre réflexion ce soir, parce qu'il y a certainement des choses fort intéressant à prendre en considération et ainsi nous confronter avec la toute-puissance de Jésus, même devant l'inexorable, devant ce que tous les hommes redoutent, c'est-à-dire la mort. Vous avez pris tout à fait le sens de ce récit. Il s'agit de l'arrivée de Jésus et de ses disciples dans un village de Galilée qui s'appelle Nain, ou Naïm, comme vous voulez, et qui se trouve environ une quinzaine de kilomètres de Nazareth. Donc, ce n'est pas très loin, là où Jésus a passé sa vie, enfin une partie de son enfance et de sa jeunesse. Voyez-vous, c'est un nom qui a pour signification Nain, qui veut dire beauté. Alors, je ne sais pas ce que nous pouvons nous représenter de ce petit village, parce que ça devait être une bourgade, hein, ça devait pas être quelque chose de très conséquent, peut-être quelques centaines, au plus, peut-être un millier d'âmes, et c'est quand même un très beau nom pour un village. Beauté, imaginez-vous. Mais voyez-vous, je pense que, comme le texte nous suggère, on peut habiter dans les meilleurs endroits du monde, là où il fait bon vivre, là où nous sommes environnés d'un paysage idyllique, et puis finalement, tout n'y est pas beau, puisque il y a des hommes qui souffrent, il y a des hommes qui vivent dans cette localité, et qui vont certainement, peut-être avoir envie de changer le nom de ce village, et de ne plus l'appeler beauté, parce que pour une famille, vraiment, la vie n'est pas belle. Et tout dépend naturellement, finalement, du temps, des circonstances, des événements de notre vie. Et on peut vivre, c'est vrai, dans des conditions tout à fait enviables par d'autres, alors que, quelque part, la vie a frappé tellement fort, nous a déchiré, qu'on ne voit rien de beau autour de soi. C'est pourtant le nom de cette localité. Il y a des intervenants. Plusieurs intervenants, il y a Jésus, il y a ses disciples, il y a une grande foule qui suit Jésus, il y a une femme, une pauvre femme, qui pleure. Il y a un jeune homme pour lequel cette mère pleure, il vient de mourir et on le porte en terre. Et puis il y a tout un autre cortège qui accompagne cette mère dans le deuil, bouleversée par la mort de son enfant, et qui suit naturellement cet autre cortège, et il y a des larmes et il y a des pleurs, naturellement. Il y a beaucoup de monde avec Jésus. Vous l'avez remarqué avec moi, un cortège, une foule innombrable qui faisait route derrière Jésus. Alors ce cortège-là, on va l'appeler, si vous voulez bien, le cortège de la vie. Parce que suivre Jésus, il ne peut pas en être autrement. Il y a de la joie. Parce que Jésus, c'est ça. Là, c'est véritablement, pour ce premier cortège, venir dans le village de beauté. C'est véritablement, eh bien, là, un nom tout à fait prédestiné et qui trouve son sens avec la venue de Jésus. Cortège de la vie. Des hommes, des femmes, des enfants. On peut s'imaginer que dans cette période ou dans cet Orient, alors, il y a beaucoup de bruit, vous comprenez, les gens sont heureux, ils chantent, ils crient, etc. Et ils sont attachés les uns et les autres au pas de Jésus. Parce qu'on est attaché à Jésus parce que c'est l'homme qui fait des miracles. Et on espère qu'en rentrant dans le village de Nain, beauté, eh bien là, il va véritablement, finalement déclarer encore une fois de plus son ministère, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Et puis c'est l'homme Jésus à la parole de Dieu. Il dit des choses assez étonnantes. C'est l'homme qui parle si bien des choses simples de la vie. Oh, il nous raconte des histoires dont il s'inspire de la nature. L'histoire du semeur, par exemple. Et puis, puisque c'est un pays de montagne, il raconte des histoires sur les bergers, sur les troupeaux de brebis, etc. Le bon berger, eh bien, ça c'est quelque chose à entendre. Et il semblerait qu'on le suit parce que l'écouter, c'est un véritable enchantement. Et vous savez que les paroles de Jésus ont enchanté tous ces gens qui ont vécu de son temps, mais ça fait 2000 ans que les paroles de Christ enchantent le monde. Ouais. Donc, il y a quand même quelque chose, et ils avaient raison de le suivre. Comme il y a encore des gens aujourd'hui qui se décident à suivre Jésus parce qu'il dit des mots, il dit des choses, et personne ne peut les raconter comme lui. À tel point qu'on vient se mettre à ses pieds. On vient par milliers se presser dans sa présence. On ne voit pas le temps passer. Ce sont des foules entières, et on l'écoute. Parce que ce qu'il dit, Jésus, eh bien, il fait si bien oublier, il sait faire oublier toutes les misères et les souffrances de l'existence. Alors, en raison de cela, on le suit. C'est ce premier cortège. Et puis, près de la porte de la ville, nous rapporte le texte, il va y avoir un sinistre cortège qui va faire, finalement, eh bien là, qui va aller à la rencontre du premier. Jésus veut rentrer dans la ville de Nain, et puis il y a un autre cortège qui veut en sortir, mais pas pour les mêmes raisons, naturellement. C'est un autre cortège, celui-ci, il est silencieux, ou c'est un silence pesant, c'est un silence embarrassant, c'est un silence véritablement qui met mal à l'aise. On s'aperçoit que dans ce cortège, eh bien, les gens sont abattus, et il y a des gens qui pleurent. Ce deuxième cortège, si vous me prêtez cette expression, c'est le cortège de la mort. Il y en a un qui veut rentrer dans la ville et l'autre qui en sort. Deux cortèges qui vont se croiser. Voici, nous dit le texte, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était elle-même veuve. Ça, c'est les tragédies de la vie humaine. Si nous regardons autour de nous, ne serait-ce que déjà dans cette journée, dans nos villes et dans nos villages, il y a eu certainement ces phénomènes. Des gens qui sont partis, qui ont été accompagnés de leurs proches pour ce qu'on pourrait dire pudiquement le jardin du repos. C'est un mot préférable à celui de cimetière, me semble-t-il, le jardin du repos, on peut dire ça. Mais que sait-on sur ce jeune homme? Parce qu'il ne nous est pas dit grand-chose. Il est mort. Alors on ne sait s'il est mort de maladie, s'il est mort d'un accident, si il a été victime d'un assassinat, parce que ça aussi c'est une cause de toutes sortes de choses. Mais en tous les cas, ce que l'on sait, c'est qu'il est mort, parce qu'on ne l'enterrerait pas. On n'enterre pas les vivants, naturellement. On sait qu'il est mort. Et la question qui vient à notre esprit lorsque nous sommes confrontés avec de telles choses, la question serait la suivante, mais comment une chose si affreuse peut-elle survenir quand la vie est à son aurore, quand la vie débute, quand la vie commence? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour le tout un chacun. C'est incompréhensible d'autant plus pour des parents. Moi, il m'est arrivé de faire des sépultures d'enfants. Je peux vous dire que c'est difficile. C'est difficile, hein, parce qu'il faut trouver les mots. Alors, naturellement, hein, les mots qui viennent à ce moment-là, c'est des mots d'amour, hein, de réconfort, sans chercher le pourquoi et le comment, et en se remettant dans une parole ou une exhortation de consolation, tout simplement à la bienveillance et à la grâce de Dieu. Pourtant, cette réalité, comme à Caïn, s'est répétée des millions de fois. Et je suis encore modeste, des millions, des dizaines, des centaines de millions de fois depuis que l'homme est sur la terre. Vous savez, il y a une chose qui est beaucoup plus naturelle que lorsque nous partons, et vous comprenez le sens du mot partir, quand on arrive à un certain âge, quand on est vieux, dit-on, quand la vie est épuisée, lorsque nous avons fait le tour de cette vie. Mais partir au début, au commencement, alors là c'est incompréhensible. Un enfant, un adolescent, un jeune homme, une jeune fille, un homme dans sa jeunesse ou dans l'âge mûr, c'est quelque chose qui produit naturellement beaucoup de questions et voire peut-être la révolte, parce que ça paraît tellement injuste et nous sommes toujours impuissants devant la mort. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors peut-être pouvons-nous bénir le Seigneur de ce que les hommes ont fait des gros progrès pour prolonger la vie, et peut-être parfois arrêter ou stopper le processus de la mort. Mais c'est ainsi. Alors, on s'aperçoit que nous avons en face de nous un ennemi, et la lutte, elle est inégale, complètement inégale. C'est comme ça, tout simplement. Et elle a cet arrière-goût, cette épouvante. La reine des épouvantes, l'appelle-t-on ainsi, toujours un arrière-goût de particulièrement pénible, et elle marque toujours la tristesse. Ouais, elle marque la tristesse. Elle est beaucoup plus accentuée chez ceux qui n'ont pas d'espérance, vous comprenez, que pour les chrétiens. Parce que si Dieu nous appelle à tous les âges de la vie, à prendre position pour lui, à faire la paix avec lui et à régler notre problème de salut, alors à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est dans le premier cortège, mais dans le deuxième, on pleure, parce qu'il semblerait que c'est une chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qui nous échappe. Et cette fois-ci, ça devait être particulièrement triste, parce que ce n'était pas une parcellangerie qui disparaissait, mais c'était un enfant ou un jeune, et il nous est bien précisé que c'était un fils unique, fils d'une mère qui était déjà veuve. Alors imaginez-vous l'accumulation. Oh, on a tous entendu ces tragédies confessées par des amis ou peut-être d'une manière ou d'une autre, des gens peut-être plus éloignés en disant que, ou en nous disant que parfois, eh bien, tout un pan d'une famille a été décimé. Alors dans le temps ou immédiatement, dans l'instant, les accidents de la route, ça arrive très souvent. Alors on s'aperçoit que tout cela, eh bien, ça semble tellement impossible à croire sur le coup, et puis inacceptable. Un enfant unique, et elle-même, cette mère, éplorée et veuve. Ce qui veut dire que pour la seconde fois, cette pauvre femme affrontait les chagrins, les plus grands de toute son existence. Ça se comprend. Hier, elle perdait son mari. Aujourd'hui, c'est son enfant. Et sa principale raison de vivre, son soutien, c'était probablement cet enfant. Il ne nous est pas donné l'âge, mais je pense qu'il s'agissait d'un jeune homme. Et sa consolation, avec la perte de cet enfant, disparaissait à jamais. C'est facile à comprendre. Et vous savez, cela, on peut dire le mot. Pour cette femme, c'était la fin du monde. Eh oui, quand vous avez tout s'écroule autour de vous, la fin du monde, tout s'effondre. Et je pense que si l'Évangile nous relate précisément, eh bien, cette histoire de cette femme, c'est pour nous montrer tout ce qu'il peut y avoir de pathétique, voire même de dramatique, n'ayons pas peur des mots, pour faire surgir et mettre en contraste triomphant ce qui va se passer après. Mais c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire de beaucoup. Pourtant, il y a cette note de réconfort. Parce que ce n'est pas le fait du hasard que Jésus devait passer par Nain. Il aurait pu passer par un autre village. Il aurait pu passer peut-être par une autre vallée en Galilée pour rejoindre là le but qu'il s'était assigné. Et pourtant, il y a une note de réconfort. Il nous est dit tout de suite après, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc on pourrait dire qu'elle n'était pas abandonnée, cette femme. Parce qu'il y avait des amis compatissants qui la connaissaient et qui l'accompagnaient, figurez-vous, à un endroit que l'on appelle la tombe. Ça, c'est sinistre, c'est terrible. On préférait accompagner les gens à autre chose, comme aux noces de Cana, par exemple, ou à la pêche miraculeuse, ou à la multiplication des pains, ou pour des rendez-vous joyeux et heureux. Mais là, c'était la tombe. Lorsque la vie bascule tout à coup, soudainement, il est bon d'avoir des mains pour nous soutenir et des cœurs remplis de compassion et de sympathie. Ouais, ça fait du bien. D'ailleurs, dans ces moments-là, vraiment, nous savons le réconfort que peut nous apporter les proches et puis aussi les amis. Mais tout cela n'a qu'une valeur relative. C'est bien. C'est bien, c'est vrai. Et finalement, qu'est-ce que l'on peut faire de plus? On peut aller que jusqu'à la tombe. Et puis là, échanger quelques paroles, quelques étreintes, quelques réconforts pour dire, mais nous ne nous t'oublierons jamais. Eh oui, mais vous savez, le temps efface tout, hein, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire de plus? Accompagner un moment, c'est vrai. Partager quelques heures, quelques paroles. Quelques prières aussi, parce que c'est dû certainement ce qui a dû se faire. Et puis vite, la vie va reprendre son train-train, ses habitudes. Puis au bout d'un certain temps, on oublie. Parce que c'est comme ça. Et il n'y a rien à faire d'autre. Et puis à partir du moment où ceux qui nous ont connus, bien disparaîtront, tout passe. Ouais, tout est emporté, tout, et ça laisse un sentiment quand même de malaise terrible. Alors, ceux qui sont concernés, les proches, vont rester seuls. Je le rappelle, cette femme était veuve. Elle n'avait que à compter que sur son fils unique et lui-même est bien disparu. Mais je vous l'ai dit il y a un instant, il fallait que Jésus passe par là. Parce que vous savez, quoi qu'on en pense, le Seigneur passe toujours là où il y a des besoins, là où il y a de la détresse, là où il y a du désarroi. Alors aujourd'hui, Jésus peut passer partout, hein. Parce que là, il était conditionné, naturellement enfermé dans un corps d'homme, mais il fallait qu'il passe par là. Et ça, c'est quand même peut-être une idée réconfortante de savoir qu'aujourd'hui, Christ n'est plus attaché à la corporalité, mais il est au milieu de nous par son Saint-Esprit. Et il passe par là. Et si nous nous sommes un peu dans cette contrée de Nain, quelles que soient les conditions dans lesquelles la vie nous a entraînés, eh bien moi je crois que Jésus passe aussi par là. Alors, l'ami suprême arrive. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour cette femme et lui dit « Ne pleure pas ». Ah, ne pleure pas. Tout le monde avait dû lui dire « Ne pleure pas ». Et Jésus lui dit en plus, Mais on va voir la signification. Je voudrais tout de suite marquer le fait que ce n'est pas un reproche ou que ce n'est pas une parole embarrassée pour se débarrasser parce qu'on ne sait pas quoi dire. Vous savez, les gens prononcent des mots quelquefois parce que devant la tristesse, devant la misère, devant le désarroi de ceux auxquels nous avons à faire face, alors dans l'embarras et d'un langage quelquefois que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser, alors on dit des mots. Alors bien sûr, je veux bien croire qu'ils soient sincères, mais quelle est la valeur des mots? Pourtant Jésus lui dit « ne pleure pas » parce qu'il sait pourquoi. Il ne faut pas qu'elle pleure. Quel soulagement de pleurer pourtant. Vous savez, c'est terrible les gens qui passent par des drames et qui ne peuvent pas pleurer. C'est arrivé, hein. Ça nous est arrivé aussi nous-mêmes, à un moment ou à un autre, d'être confrontés avec des choses terribles dans notre propre famille. Et puis, bon, on est sur le choc et peut-être pendant quelques heures, peut-être pendant un ou deux jours, on est là, on est assommé, on peut dire les choses. Puis à un moment donné, on s'effondre, et là on pleure. Et il faut pleurer. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a là tellement sur le plan émotionnel, sur le plan de ce que nous avons retenu, eh bien il faut que ça soit vidé. Or Jésus connaît bien la souffrance. Il connaît très bien la souffrance morale des hommes, parce que cette souffrance-là, elle fait beaucoup plus mal encore qu'une souffrance physique. Et lui-même, je voudrais le rappeler, Jésus l'a partagé. Jésus a pleuré sur le tombeau de Lazare. Ça, c'était la mort d'un ami. Jésus pleurera pour des milliers et des milliers d'hommes quand il versera des larmes sur la ville de Jérusalem, dans l'attente d'un jugement qui viendra en raison de son indifférence, de sa haine et de sa folie. Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Et pourtant, nous apprenons dans la Bible que Dieu n'est pas indifférent. Même au plus grand désastre qui afflige l'humanité, et s'il y a un désastre qui afflige l'humanité, c'est bien le péché. Or, vous savez très bien que si vous voulez donner une explication à la mort, la Bible nous répond. Le salaire du péché, c'est la mort. Qui, aujourd'hui, mis à part les enfants de Dieu, les chrétiens, qui croient que la mort est la conséquence du mal généralisé, du péché et de la folie? Et pourtant, c'est ce qui nous est dit dans la Bible. Jésus comprend les larmes, avons-nous dit il y a un instant. Et le cœur déchiré de cette mère, lorsqu'elle s'épanche et qu'elle pleure, eh bien, n'est pas un sentiment mauvais. C'est la preuve de son humilité. Oui, il faut savoir pleurer. Et quelquefois, eh bien, ce n'est pas un péché de pleurer même devant les autres. Remarquez, on nous a toujours dit, déjà tout petit enfant, et particulièrement aux petits garçons, il ne faut pas que tu pleures, il faut que tu sois un homme. Ben moi, je dis que c'est une sottise. Parce que quand nous avons envie de pleurer, il faut pleurer, c'est tout. Il faut s'épancher, il faut se vider. David nous le dit dans un des psaumes, il parle dans ses mots, il dit « mes larmes eh bien remplissent une outre ». Alors imaginez-vous ce que ça peut représenter. Ouais. On nous a souvent éduqués dans le stoïcisme, pas montrer nos sentiments, rester droit, rester inflexible. Ben oui, mais qui peut braver devant la mort, hein? Qui peut défier la mort? Je voudrais revenir sur ce mot de Jésus qu'il dit à cette femme, le « ne pleure pas ». Je voudrais paraphraser, si vous me permettez que je change seulement un mot, « ne pleure plus », parce que cette femme avait pleuré. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens autour de nous où nous avons beaucoup pleuré. Et après avoir beaucoup pleuré, Jésus va nous dire, mais ne pleure plus. Je suis là. Je suis auprès de toi. Et je suis venu pour te donner les plus belles et les plus glorieuses raisons de mettre un terme à tes larmes. Ou alors peut-être, tu vas pleurer mais d'une autre manière. Tu ne vas plus pleurer de chagrin, de peine. Tu vas pleurer de joie. Et ça, c'est beau. C'est ce qui va arriver. Le « ne pleure plus » de Jésus est la réponse au besoin de consolation. Et quand nous souffrons horriblement comme cette femme, eh bien, C'est un besoin d'amour que nous avons besoin, auquel on a volé l'objet de sa tendresse, c'est-à-dire son fils, et ça s'appelle de la compassion. Et c'est la compassion de Christ qui le fait parler, autrement il n'aurait rien dit. Les souffrances du cœur sont certainement des plus loin, les plus cruelles. Ouais, quand vous avez, que l'on vous l'arrache. Et que vous savez que ce qu'on vous a pris, vous ne le reverrez jamais. C'est terrible. Il y a une belle phrase que nous trouvons dans le livre des psaumes, si ma mémoire est fidèle, qui est très rassurante, une parole très rassurante. Il nous est dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui t'aiment. Alors vous savez, ce que nous comprenons dans tout cela, c'est que si vraiment nous aimons Seigneur, eh bien, notre mort a du prix aux yeux de Dieu. Il ne veut pas que nous mourions, en tous les cas perdus. Et il sera là jusqu'au dernier moment pour nous accompagner et nous introduire dans ces sanctuaires de gloire, de joie et de consolation éternelle. Moi, je crois que Dieu pleure sur chaque homme qui meurt perdu. Il y a là une ignoble besogne dans notre monde qui est le fait du grand ennemi. C'est Jésus lui-même qui le nommera le meurtrier, que la Bible appellera le diable, Satan. Pourtant, la mise en garde est toujours là, parce que nous la retrouvons dans le jardin d'Éden, et c'est Dieu qui aurait voulu certainement éviter le drame de la mort dans l'humanité. Dieu avait dit, mais si tu touches de cet arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance, tu mourras. Et Satan répond, mange et prends, parce que Dieu t'a raconté des histoires. Mais Dieu aurait-il réellement dit? Et ça, c'est la voix du mensonge qui tue. Ça, c'est un mal qui vient d'ailleurs, dont les hommes, finalement, eh bien, goûtent le fruit amer tous les jours. Ne pleure pas, dit Jésus. Parce qu'il y a naturellement un temps pour pleurer, et puis il y a un temps pour cesser de pleurer. Et les raisons, nous les avons précisément dans la suite de notre récit. C'est la parole que Jésus adresse à tous ceux qui veulent bien l'écouter pour enlever son chagrin. Détournez les hommes quelques instants de leur peine, afin que nous puissions simplement, calmement, écouter ce qu'il a à nous dire. Vous savez que lorsque nous prions, quelquefois nous sommes malades, ça nous rend malades, la souffrance et le chagrin. Mais nous ne sommes peut-être pas toujours enclins et dans les capacités d'entendre ce qu'il a à nous dire. Alors ne pleure plus. Ne pleure plus parce que j'ai quelque chose à te dire. Que ce soit nos larmes, que ce soit nos sanglots, tout cela nous enferme dans, comme si c'était une prison, comme un nuage douloureux qui nous captive et nous ne sommes plus accessibles à ce que Jésus nous dit, ne pleure plus, parce que tu n'as plus de raison de pleurer. Et je vais te dire pourquoi. Tant que nos cœurs sont complètement déchirés et que nos yeux, eh bien là, sont noyés dans les larmes, nous ne pouvons ni comprendre, ni entendre la voix de Dieu qui nous dit, mais ne pleure plus. Et ce soir, peut-être, si vous transportez un problème, ou vous portez un problème depuis des mois et des mois qui vous fait pleurer, je voudrais vous dire de la part du Seigneur, il vous dit, ne pleure plus, parce qu'il y a une solution maintenant qui va venir. Tant que tu t'enfermes dans ta prison, tant que tu en fais même à la limite une complaisance, tant que tu n'arrives pas à faire ton deuil quand il s'agit de la mort, tant que tu n'arrives pas à t'extirper de ce ravin, de ce fossé, alors à ce moment-là, mais tu vas tomber dans une sorte de psychose, dans quelque chose de morbide, dans quelque chose qui va finalement, eh bien, t'empêcher de voir la solution. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça, devant des drames de la vie, ô combien compréhensible de devoir pleurer, mais d'en faire pratiquement quelquefois une idolâtrie, de ne vivre qu'avec la mort, de ne vivre qu'avec celui ou ceux qui sont morts. Écoutez, Dieu nous a donné la vie pour que nous vivions avec les vivants et que nous proclamions notre espérance, que la mort n'a pas eu le dessus sur la vie et que le salut de Dieu est offert à tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur pour nous donner, malgré les problèmes, malgré les douleurs, malgré tout ce que la vie ou l'existence a pu nous égratigner, nous piétiner, nous couper, nous broyer, eh bien qu'il y a encore quelque chose à vivre. Et de continuer de vivre. Il y a des gens qui se sont arrêtés de vivre au moment où il y a eu un drame ou ceci et cela. Et c'est peut-être le piège dans lequel cette femme peut glisser. Son mari, son enfant, ils sont morts, elle est toute seule. Et de faire finalement tout un monde autour de ça. On ne vit pas avec la mort. Jésus, comme la pauvre veuve de Nain, nous dit qu'il a porté nos maladies, qu'il a porté nos infirmités, que Jésus est venu prendre nos peurs, nos angoisses, qu'il est venu prendre notre souffrance et nos déceptions, nos révoltes peut-être consécutives justement à ce que nous ne comprenons pas ou ce que nous n'avons jamais compris. Parce que Jésus sait à l'avance ce qu'il va faire pour nous. Il sait ce qu'il allait faire. C'est pour ça qu'il lui dit « ne pleure plus ». Lorsque j'ai une promesse d'une situation qui m'est impossible et que quelqu'un vient me dire « mais je peux faire quelque chose pour toi », alors à ce moment-là, je vais cesser de m'inquiéter, je vais cesser de pleurer, je vais cesser de m'angoisser, puisque je sais que j'ai quelqu'un qui a la possibilité de faire quelque chose pour moi. Or, Jésus le disait à cette femme et il nous le dit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus est capable de nous rendre la vie. Oui, il était capable de rendre la vie non seulement meilleure à cette pauvre femme, mais plus encore, ce qu'elle ne pouvait pas s'attendre, c'est qu'il était capable de rendre la vie à son fils qui était mort. Ça s'appelle la résurrection. Mais pour cela, il faut que nous tournions notre regard de désespoir et que nous le changions en regard d'espérance et en regard de foi. Ne pleure pas, ne crains pas, n'aie pas peur. Et le miracle est en route à partir de ce moment-là. Il s'approcha, Jésus s'approcha, et il toucha le cercueil. Vous savez, cette boîte, ce cercueil, qui est l'image de tout ce qui nous retient. Parce que quand vous êtes dans cette condition, vous ne pouvez pas sortir. Hein. Vous êtes dedans, vous n'en sortez pas. Hein. Tout ce qui nous retient, tout ce qui nous enferme dans notre misère. Et cette femme n'était peut-être pas dans le cercueil, mais elle était aussi renfermée. Elle était emportée aussi dans ce sens. Il y a une différence à souligner dans ce geste. C'est la sympathie de la foule qui aidait la veuve à supporter son chagrin, alors que celle de Jésus préludait à l'enlèvement de ce chagrin. Ouais. Du côté des hommes, il y avait la sympathie, mais cette sympathie, elle ne rend pas la vie. La commisération ne rend pas la vie. Par contre, le geste de Jésus en direction et de toucher ce cercueil, eh bien là, c'est exactement l'inverse. C'était l'enlèvement de ce chagrin. Il s'approcha et il toucha. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se passer une chose d'abord dans l'environnement, dans l'entourage. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Le processus de la mort. Qui étaient ses amis? Qui étaient ces hommes qui portaient le cercueil, ce jeune homme vers la tombe? Alors ils se sont arrêtés, ce qui signifie que les paroles et les actes de Jésus sont criants de cette vérité. Il arrête, si vous aimez mieux un autre mot, il stoppe le mal, il stoppe la mort. Les preuves, nous les avons dans l'Écriture sainte. Le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Qu'on se laisse approcher et toucher, cela suffit pour délivrer. Il y a mille et une raisons et citations, exemples dans l'Écriture sainte où Jésus s'est approché, il a parlé, il a touché, il a imposé les mains, il a fait ceci et cela, et voilà que le miracle se produit. Je cite, à une femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. À un autre, tu es guérie de ton mal. À Lazare, Lazare sort. Va te laver au réservoir de Siloé. » C'est l'aveugle. Étends ta main, et nous voyons que le miracle se fait. S'étant penché sur elle, c'est des citations parmi d'autres, il nous est dit qu'il menaça la fièvre, et la belle-mère de Pierre est guérie. Il imposa ses mains sur chacun d'eux, et il les guérit. Jésus étendit sa main et le toucha, c'est le lépreux. Va, prends ton lit et marche, une parole. Il la saisit par la main et lui rendit la vie. Jeune fille, lève-toi. Elle ressuscite, Jaïrus. Jésus est le seul capable d'arrêter le cycle infernal du mal et de se faire et de défaire le processus de la maladie et de la mort. Ouais, c'est vrai pour la maladie, c'est que quand nous sommes malades, nous ne sommes pas morts, mais c'est vrai pour la mort elle-même. Et nous en avons la preuve. Ce sinistre cortège, le deuxième dont nous avons parlé, qui mène à la mort, Jésus l'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Ils sont à l'image de tout ce qui nous entraîne inéluctablement et parfois inconsciemment à la misère et au désespoir. Mais quand on a Jésus dans sa vie, quand on a Jésus auprès de soi, les choses changent. Il faut une rencontre avec Jésus pour arrêter cette descente vers la tombe. Est-ce que Jésus n'aurait pas dit « Je suis la vie, je suis la résurrection, celui qui croit en moi a la vie ». Qu'il a la vie éternelle, celui qui vit en moi dans la foi, celui qui croit en moi, vivra quand même, il serait mort. Voilà. Et ça, c'est offert à notre foi, à notre confiance que nous pouvons mettre en Dieu. Je ne peux pas expliquer autrement, mais ça marche. C'est la vérité. Jeune homme, je te le dis, lève-toi, dit Jésus. Et là, c'est une parole de Dieu qui donne la vie, c'est-à-dire l'évangile qui est une bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul qui empruntera un langage similaire pour des gens qui sont morts moralement ou qui sont morts spirituellement, pas physiquement mais moralement. Il est dit ceci, emprunté certainement à des citations de l'Ancien Testament. « Réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Le Seigneur est encore capable de faire les choses de cette manière. Puis je termine. Un mot de Jésus, et la vie va rejaillir dans l'enveloppe sans vie du jeune homme, aussi facilement qu'on éveille un ami endormi, que la guérison se présente, la délivrance, le salut, et même la nouvelle naissance. Un mot suffit. Lève-toi, tout simplement. Et le mort s'assit et se mit à parler, Jésus le rendit à sa mère. Nous nous apercevons, la constatation est faite, que l'immobilisme fait place au mouvement. Il a entendu cette parole dans un monde qui n'était plus le sien et il s'est assis. Donc, le mouvement de la vie. Le silence fait place à la parole. La mort fait place à la vie. La tristesse fait place à la joie. Et à partir de ce moment-là, le texte nous rapporte Jésus le rendit à sa mère, et quelle fête, quelle joie, quel bonheur, quelle chose inouïe, pouvons-nous dire, mais quelle fête de rencontrer Jésus même sur nos chemins de désespoir, et c'est bien le cœur même de ce message que nous partageons en ce moment, parce qu'il est capable, et faut-il le rappeler, de changer le mal en bien, le mauvais en bon. Et il nous invite à changer de cortège. Je vous ai parlé de deux cortèges. Le cortège de la vie et le cortège de la mort. Et c'est l'expérience que nous sommes appelés à faire. De changer de cortège parce que nous n'allons pas vers la mort, nous n'allons pas vers la tombe, mais nous allons, en suivant Jésus, vers la vie, la vraie vie, l'éternelle, celle qui ne finira jamais. Il vivra quand même, il serait mort. Parce qu'il croit, il vit en moi, nous dit Jésus. Je prendrai une dernière parole du livre du Deutéronome dans l'Ancien Testament. Il est dit ceci, « J'en prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. » Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction, et l'invitation, la proposition pressante qui nous est faite. Choisis la vie afin que tu vives, et moi je dirais choisis la vie, ne pleure pas, ne pleure plus, lève-toi et change de cortège. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. Voilà l'histoire de ce petit village qui s'appelait Nain, où tout n'était pas beauté, mais tout ce qui a été souillé, tout ce qui a été défiguré par le mal, la mort, et toutes ces choses pouvait porter vraiment le nom de beauté après, beauté de Dieu, beauté du ciel. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que le message de l'Évangile est un message d'espérance. Un message de foi, c'est un message d'espoir. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi et je te demande de nous visiter les uns et les autres qui avons entendu ta parole, qui recevons ta parole. Et Seigneur, c'est vrai, nous croyons que l'apôtre Paul avait raison de bien croire à l'appel qui lui avait été adressé, de changer de camp. Oui, Seigneur, de faire passer les hommes, eh bien, des ténèbres à la lumière, de la puissance de la mort à la puissance de la vie. Et ainsi, Seigneur, eh bien, de suivre celui qui nous conduit vers le haut et d'abandonner celui qui nous conduit vers le bas, c'est-à-dire la tombe, la mort et la terre. Seigneur, toi, tu nous donnes l'espérance du ciel. Je te demande, Seigneur, pour tous ceux qui ont peur de la mort, qu'ils ne craignent plus. Je te demande pour tous ceux, Seigneur, qui pleurent et qui pleurent depuis longtemps, qui n'arrêtent pas de pleurer, qui ne peuvent pas cesser de pleurer, qui sont enfermés dans une prison de chagrin et de larmes, pour des raisons, Seigneur, qui sont tout à fait compréhensibles, des raisons, Seigneur, de séparation brutale, des raisons, Seigneur, où le monde n'a jamais pu donner une véritable consolation. Seigneur, je te demande qu'ils puissent entendre cette parole qui vient de toi. Ne pleure plus, parce que tu sais ce que tu vas faire. Et nous voulons te rendre grâce parce qu'il est toujours possible de continuer à vivre. En effet, toujours avec le souvenir, c'est vrai, mais un souvenir qui ne nous empêche plus de vivre, un souvenir qui ne nous ravage plus, qui ne nous détruit plus, un souvenir qui est là, Seigneur, qui a été guéri dans nos cœurs par Jésus, avec cette espérance que tous ceux que nous avons perdus, eh bien, nous les réveillerons un jour. Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, révèle-toi et manifeste-toi, et je te demande de marquer d'une action puissante de ton Saint-Esprit tous ceux qui sont comme cette pauvre veuve, et qui ont besoin, Père éternel, de regarder à toi pour être guéri, pour être soulagé, pour être consolé, pour être délivré, Seigneur, d'un trop-plein de pleurs, de chagrins et de larmes, puisque tu es celui qui a la capacité de changer nos larmes en joie, en allégresse et en bonheur éternel. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.